Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et nous sommes déjà vendredi. C'est déjà la fin de la semaine. Mon compère Olivier de Scooter co-anime ce dernier épisode de la semaine avec moi. Salut Olivier.
Salut Armano.
Et notre invité que nous recevons pour la dernière fois de la semaine sur ce podcast, Lionel Lestrade. Salut Lionel.
Salut Armano. Salut Olivier.
Alors Lionel, je voulais qu'on finisse pas en apothéose, puisque l'apothéose, on en a parlé hier, c'était ton Hawaï 2017, l'année où tu as fait 2 Ironman. C'était pas ta pire bêtise parce que tu nous as dit qu'une fois t'en avais fait 4 dans la même année. Bon, malgré tout, tu nous as parlé d'Hawaï. Mardi, tu nous as parlé de changement de catégorie. Donc, peut-être des velléités de refinir en apothéose. Quels sont tes plans déjà pour la saison 2021 qui se termine, 2022 qui approche et peut-être pour les années suivantes?
Alors ouais, sur 2021, donc forcément, comme il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de courses, de planifications qui ont sauté. Je dirais cette année, ça a été un petit peu pour moi une année un peu transition. J'ai découvert un petit peu le gravel. Donc je me suis mis pas mal au gravel depuis cet été, avec comme objectif, là, fin septembre, je dois participer au Natureman Var Explorer, qui est une nouvelle formule de triathlon où, pour faire court, on devait enchaîner 3 triathlons à suivre, avec une portion pour le vélo, une portion route, enchaînée avec une portion gravel. Bon, hélas, il y a eu des incendies au mois d'août, et du coup, la vraie version aura lieu qu'en juin l'année prochaine, parce qu'ils ont dû adapter et garder une version, ce qu'ils ont appelé une version solidaire, qui va y avoir fin septembre. Bon, je vais quand même participer, mais cette fois-ci, il y aura un triathlon le samedi et un triathlon le dimanche. Il n'y aura plus l'enchaînement des 3 triathlons qui permettaient de faire un effort sur une trentaine d'heures à peu près à suivre. Donc ça, c'était plus un petit challenge personnel de découverte, comme je me mets petit à petit aussi au bikepacking, que je découvre et que je trouve ça juste magique en termes de défis personnels, de découverte de ses propres performances, etc. Je trouve ça magique.
Ouais, tu sais que là, t'as un spécialiste du bikepacking.
Je sais bien, c'est pour ça que je le dis. Et c'est vrai que voilà, je trouve ça. J'ai fait il y a 15 jours, j'ai fait un 270 km en gravel avec un départ à 22 heures, roulé toute une nuit. J'ai trouvé ça extraordinaire, magique, mais vraiment, voilà, c'était viscéralement, c'était très très fort.
Rassure-moi, Lionel, t'as roulé un peu la journée quand même aussi le lendemain, ou bien t'as terminé la nuit parce que.
Non, bah, si, on a eu le droit au lever du soleil.
Ah, d'accord.
Il était 9h30 le matin. Okay. Donc, j'ai découvert, mais c'était magique. Donc voilà. Autrement, en termes de triathlon, oui, ce que on disait, j'aimerais, entre guillemets, finir ma carrière. Quand je dis finir ma carrière, c'est finir sur un Ironman, toujours avec cette optique de chrono. Je pense que je vais continuer, j'espère pouvoir continuer encore de nombreuses années le triathlon, parce que c'est un sport qui me passionne, mais en mettant la notion de performance plus en deuxième rideau, parce que ça, au bout d'un moment, ça devient quand même fatigant d'aller chercher toujours des chronos. Ça veut dire que des planifs qui sont des prépas qui sont très exigeantes pour tout le monde. Et voilà. Et j'ai commencé depuis un an également à passer un petit peu de l'autre côté. C'est-à-dire que maintenant également, j'accompagne des gens sur le triathlon en leur faisant des planifications, du débutant à l'expert entre guillemets, celui qui vient chercher un chrono. Donc ça me prend de plus en plus de temps. Donc j'aimerais l'année prochaine éventuellement reparticiper à un Ironman, lequel j'en sais rien, sous quelles conditions je ne sais pas, tout va dépendre un petit peu si tout s'aligne, si au niveau planning j'arrive à me dégager du temps, parce que il faut du temps. Donc voilà, pour l'instant pas de projection précise. J'ai en tête ça parce que en effet je change de groupe d'âge, donc pour mes 50 ans ça pourrait être génial. Mais voilà, rien de vraiment très précis.
Attends, il y a quand même quelque chose que je comprends pas, parce que d'un côté, tu dis j'aimerais ne faire abstraction du chrono, mais en même temps, si je peux me qualifier pour Hawaï, je serais
content. Non.
Après Hawaï,
voilà. D'accord.
Voilà, okay. Après, c'est-à-dire que j'aimerais continuer les triathlons encore longtemps, mais justement plus dans cette notion de participer à un événement, de prendre du plaisir, et en mettant la notion de chrono secondairement.
D'accord,
mais
donc oui, tu te donnes encore une grosse saison devant toi sur l'année prochaine, et puis c'est après, tu lèves un peu le pied.
Ouais, complètement.
Tu nous dis que tu es passé d'un côté à de l'autre, c'est-à-dire que tu encadres aussi des gens. Oui. Il manque la troisième patte, finalement, du sport, c'est l'organisation. Est-ce que tu n'as pas dans tes cartons d'organiser quelque chose?
Là, mon planning, il explose, là. Là, c'est plus possible. Et puis, je pense qu'il y en a une à la maison aussi qui explosera en même temps. Donc, non. Là, faisant partie d'un club, forcément, je fais partie à chaque fois des bénévoles quand le club organise ses propres courses. Donc, voilà. Mais organiser un propre événement, là, je vois pas où je pourrais le placer entre mon planning professionnel qui déborde un petit peu plus les projets que l'on a sur les accompagnements d'athlètes en réathlétisation, justement, avec Christelle, on a monté une société de coaching, surtout en réathlétisation et préparation physique. Moi, je fais également beaucoup j'interviens régulièrement sur des formations, par exemple auprès de la FF3, où j'interviens tous les ans dans la formation des entraîneurs pour tout ce qui est expertise de course à pied. Depuis un an, j'ai intégré la franchise Vélo Fitting, où je fais énormément d'études posturales vélo. Donc, je m'occupe de tout le Grand Ouest pour les études posturales vélo. Donc, ça me prend aussi beaucoup de temps, beaucoup de déplacements, mais ça me passionne et c'est passionnant. Donc, voilà. Donc, il faut jongler avec tout ce planning. Donc, on a attendu de voir, et puis comment on va pouvoir revoyager l'année prochaine, qu'est-ce qui va apparaître sur les calendriers. J'ai plein de projets, mais rien de défini.
Ouais, finalement, tu nous en as dit plus sur toi dans le dernier épisode de la semaine que dans l'épisode de présentation.
C'était pour garder le suspense jusqu'au bout.
Ah, d'accord.
Quand tu parles d'études posturales et d'analyse du coureur, c'est quoi que tu fais exactement? C'est des analyses de foulée? Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, pour le coureur, oui. Oui, c'est alors moi ma patte, c'est-à-dire quel que soit le sport ou la personne, je suis très féru de ce qu'on appelle préférence motrice ou préférence naturelle suivant le courant que l'on va prendre. Donc le début de mes bilans passe par ça, c'est-à-dire définir le profil de la personne. Et chez le coureur, après, je vais analyser sa foulée. Donc, au sein de mon cabinet, j'ai un tapis, je vais la faire courir, et on va filmer et on va regarder si la personne, par rapport à sa pratique, par rapport à ses préférences naturelles, elle est en adéquation par rapport à ses chaussures, si elle court entre guillemets avec des chaussures qui sont en adéquation à sa pratique, à son profil, etc. Et on va faire la même chose en vélo. Donc en vélo, en plus là, j'ai un système qui me permet de modéliser la personne. Donc c'est une analyse dynamique, c'est-à-dire que la personne, on la met sur son vélo, sur le home trainer, et on va analyser son coup de pédale en direct dans les trois plans de l'espace, et on va analyser tous les mouvements articulaires de la cheville, du genou, de la hanche, et voir réellement comment la personne se place sur son vélo, comment elle recrute ses chaînes musculaires, et le résultat que ça donne, et pour pouvoir vraiment optimiser sa position sur son vélo, à sa pratique et à son type de vélo.
Donc en fait, pour que les auditeurs voient un peu à quoi ça ressemble, grosso modo, il y a des angles un peu idéaux sur un vélo, pour chacune des articulations, c'est-à-dire quel est l'angle de mon coude, de mon épaule, de ma hanche, etc.
Tout à fait, voilà, il y a un curseur.
C'est ça.
Et par rapport à ce curseur, moi, je vais amener la personne plus ou moins dans une des extrémités de son curseur par rapport à son morphotype, par rapport à sa pratique et par rapport à ses préférences.
Et donc, en gros, tu mets des capteurs sur le corps du cycliste, et l'appareil en question, enfin la caméra, en fait, va, via
le
logiciel que tu utilises, calculer les angles.
Qui modélise. On va modéliser la personne en trois dimensions, et on va être en mesure de mesurer tous les secteurs angulaires qui sont parcourus pendant le pédalage.
Et en fonction de ça, on va incliner un petit peu la
selle. Voilà, on va faire des réglages. Voilà, tout à fait. Et puis on va remesurer. Ça, voilà, et on va remesurer immédiatement pour voir comment le corps réagit et se comporte à la modification d'un des paramètres, puisque chaque paramètre du vélo va agir sur les autres. Et donc, c'est de trouver le meilleur compromis de réglages possibles par rapport à la qualité propre de l'athlète et par rapport à sa pratique.
On avait déjà parlé un petit peu d'études posturales avec Francky Batelier et avec Marc Picrit. C'est un sujet qui est hyper intéressant. Est-ce que tu as des chiffres par rapport à des gains de performance grâce à une meilleure position sur le vélo?
Non. Moi, j'ai pas de chiffres parce que moi, je pars du principe que le fait de changer, d'optimiser une position chez certaines personnes, elle va pas forcément se quantifier en watts gagnés. Par contre, elle va se quantifier dans le confort et dans l'énergie économisée à tenir la position. Par exemple, si on part sur un Ironman, quelqu'un qui a une position sur son chrono qui nécessite que tous ses muscles paravertébraux et compagnie sont énormément sollicités parce que la position est trop extrême pour tenir, et ben il va à la fin de son vélo, sa dépense énergétique sera supérieure à une position où il aurait été beaucoup plus dans la détente, si on peut parler comme ça. Donc du coup, il n'aura pas forcément gagné des watts dans son parcours, mais par contre, il aura gagné en dépense énergétique, ce qui veut dire que derrière, quand il va courir, il aura éventuellement plus de fraîcheur et il pourra se redresser aussi beaucoup plus facilement.
Oui, mais donc du coup, si on voudrait essayer de quantifier les bienfaits de la posture sur le vélo, ce serait un ratio entre énergie dépensée versus les watts, quoi.
C'est exactement ça. C'est exactement
et peut-être
ça.
Le ressenti général aussi, parce que effectivement, si t'es complètement contracté sur un chrono, quand tu vas partir courir,
ou quoi que ce soit, et on le voit régulièrement sur les courses, les gens quand ils déposent le vélo et qu'ils essayent de se remettre debout et sur les premières foulées, on voit que c'est très 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 compliqué. Donc en effet, c'est là où intervient aussi l'expérience, c'est-à-dire c'est de trouver le meilleur compromis par rapport à la pratique, d'avoir une super position aéro, c'est bien, mais si elle n'est pas tenable et on ne peut pas courir derrière, ça n'a aucun intérêt.
Comme une selle inclinée à 17 degrés, par exemple.
Voilà, tout à fait. Ou un dos à 10 degrés, super aéro. Et voilà. Sachant que sur l'aéro, il y aurait des choses à dire, puisque j'ai eu la chance également, il y a quelques temps, de passer en soufflerie et de tester différentes positions. Entre autres, les positions avec le prolongateur énormément relevé vers soi, comme on a tendance à voir maintenant chez certains pros, entre autres, bah finalement, c'est pas forcément plus aéro. Non. Après, l'aérodynamisme est encore un autre débat, puisque il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est pas simplement une position qu'il faut prendre en considération, mais l'ensemble.
Du coup, j'ouvre la parenthèse parce que tu le mentionnes, les prolongateurs relevés, tu dis c'est pas si aéro que ça. Du coup, c'est quoi? C'est pour le confort surtout?
Ah ben, il faudra leur demander. Parce que moi j'ai testé ma position traditionnelle qui était vraiment une position avec mes avant-bras plus à l'horizontale et on a fait la mesure avec les prolongateurs vraiment inclinés quasiment à 45 degrés. J'ai perdu 30 watts au niveau de la soufflerie, enfin au niveau de la
30 watts, c'est énorme.
C'est énorme.
La traînée, ouais, c'était assez énorme. Donc voilà. Donc moi ça m'a mis un peu de l'eau à mon moulin parce que dans les études que je fais quand les triathlètes arrivent et ils me disent ouais moi je veux avoir les prolongateurs dans cette position pour être plus aéro, je dis bah peut-être pas. C'est peut-être pas la meilleure position pour être le plus aéro. On va déjà optimiser la position en termes de confort et compagnie, puis on verra dans un deuxième temps.
On va investiguer un petit peu le sujet, Hermano, pour un prochain épisode.
Ouais. Alors moi, je voulais revenir sur une dernière chose. On a dit dans un épisode précédent que toi, tu étais plutôt un adepte de progresser lentement, d'évoluer en termes d'intensité et de volume progressivement. Voilà, je trouve mes mots. Quand on parle d'études posturales et de changement de posture, est-ce que tu adaptes la même technique, c'est-à-dire que changer la posture de quelqu'un qui est habitué depuis quelques mois, quelques années à pédaler d'une certaine manière, j'imagine que si tu lui mets ne serait-ce que 2 degrés de plus sur un pédalage, ça va changer énormément pour lui. Est-ce que tu conseilles d'évoluer progressivement ou alors de toute façon, une fois que le réglage est fait, il est fait, quoi?
Oui, alors ça, c'est assez pareil, c'est propre à chacun dans le sens où il y a des gens tout le monde n'a pas la même sensibilité. En effet, comme tu dis, il y a des gens, tu leur bouges 2 degrés, ça les perturbe complètement dans leur équilibre. Il y en a d'autres, tu montes la selle de 2 cm, ils sentent à peine le changement. Donc, un, ça va être propre à chacun. Donc, suivant le type de changement que je vais faire, je vais leur... Alors, soit, par exemple, pour un exemple, je monte la selle de 2 cm. Sur les sorties qui vont suivre, soit je vais leur dire, écoute, tu mets ta selle de 1 cm. Tu t'habitues pendant plusieurs sorties et au bout d'un moment, tu pourras vraiment mettre ta selle au changement qui est qu'on a optimisé. Donc en effet, et il y en a d'autres. Quand on fait l'étude, qui me disent « Ah mais ouais, mais vraiment, là, je me sens très très bien. Je sens que la position, elle est vraiment plus confort et plus optimum dans mon coup de pédalage. » Dans ces cas-là, je leur dis « Bah reste comme ça. Par contre, diminue ta durée de séance par rapport à d'habitude. Tu vas faire une heure et quart maximum sur plusieurs sorties pour voir comment ton corps réagit. S'il réagit bien, il n'y a pas de voyant qui s'allume, bah, petit à petit, tu peux reprendre progressivement ta longueur en termes de séance. » Et de remettre après un peu d'intensité, mais je vais être plus dans la progressivité, dans la durée des séances.
Est-ce qu'il n'y a pas une question de gainage aussi, au plus quelqu'un est gainé, enfin naturellement ou de par sa pratique du sport, enfin il va plus facilement s'adapter, quoi, c'est ça que je veux dire.
Ouais, il y a ça, et on s'aperçoit que j'ai beaucoup de gens finalement qui sont trop bas sur leur vélo, qui ont des selles trop basses.
Ouais, on voit souvent ça.
Ouais, et du coup, ils ont une stabilité du bassin qui est mauvaise, puisque comme ils ont un schéma, un développement du coup de pédale qui est pas optimisé, avec une flexion de genou qui reste trop importante, du coup, le bassin, il a pas vraiment, il manque de points d'appui, et le bassin est vraiment très instable. Et dès qu'on les remonte, on le voit très bien à la mesure, le bassin se stabilise, les gens se sentent mieux, développent leur coup de pédale, optimisent leur coup de pédale, vont chercher un peu plus loin dans le recrutement, et du coup, rien que ça. Le gainage va venir en complément, mais rien que ça déjà suffit pour obtenir plus de stabilité.
Oui, parce qu'il faut le dire quand même, dans la majorité des cas, en tout cas pour les gens qui vont faire une première étude posturale, en général, ils seront quand même mieux dans la nouvelle position que dans la position dans laquelle ils étaient auparavant. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on en a déjà fait plusieurs, éventuellement, on va aller chercher peut-être plutôt quelques watts au lieu du confort. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir l'effet un peu inverse. Je sais que j'avais fait une étude posturale récemment avec mon vélo de contre-la-montre, parce que c'était un nouveau vélo. Et effectivement, il y a un côté ouais, on va gagner du confort à certains endroits, mais il y a un autre côté aussi où finalement, on va vouloir privilégier prioriser la performance, on est un petit peu moins confortable quand même.
Tout est question de compromis, où on veut aller, quel est l'objectif premier de l'étude et où est-ce qu'on veut emmener l'athlète dans quelle discipline et quelle orientation. Mais c'est exactement ça.
Ok. Passionnant.
Avant de te laisser partir, est-ce que tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut retrouver plus d'informations sur toi, Instagram, Twitter, Facebook ou autre, et puis sur ta société Réathlète Fit?
Alors la société Réathlète Fit, on a un site qu'on a été obligé de mettre un petit peu en suspens parce que on devait avoir des locaux et bon bref, je passe, on n'a pas pu avoir les locaux, donc les locaux vont arriver certainement au début d'année prochaine. Autrement, pour les études posturales, moi je fais partie du réseau Vélo Fitting. Donc moi je me déplace sur tout l'Ouest. Autrement, vous tapez mon nom Lionel Lestrade sur Instagram ou Facebook et vous retrouverez des actualités comme des ateliers. Il va y avoir un atelier du coureur au mi-octobre également sur Nantes où là par petits groupes on débrief et on regarde comment les gens courent, comment on peut optimiser leur pratique avec la vidéo, avec les chaussures, avec plein de conseils qu'on peut pour optimiser la pratique en prenant du plaisir.
Super. On suivra ça de près.
Merci.
Lionel, merci pour cette semaine passée avec nous. On te souhaite une bonne continuation, un bon changement de groupe d'âge dans quelques mois. Et puis, forcément, bon courage pour Hawaï 2022, 23, ou enfin pour le prochain Hawaï, on va dire.
Parfait. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité. J'ai passé un très, très bon moment en votre compagnie.
Plaisir partagé. À très vite.
Super. Merci beaucoup. À très bientôt.
Au plaisir. À bientôt. Bonne continuation à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs !